au réseau Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud.
Bon, alors c'est l'heure des... C'est l'heure. On a lancé la question. C'est même pas une question. Donnez-nous une anecdote qui concerne votre papa.
Oui.
Catherine Huet, ici, s'amène à de toute urgence et avec une grave déclaration sur son père, mais on va sauter. Non, on ne veut pas énerver sa mère là, qui écoute.
C'est ça, oui.
Non, mais on en a beaucoup,
Thérèse. On en a beaucoup, en fait, parce que les gens, on vous demande une anecdote, on vous demande, par exemple, votre père avait-tu un petit travers qui faisait rire les gens ou qui était... on peut s'amuser quand même en se rappelant de bons souvenirs. Il y a quelqu'un, un auditeur qui nous dit, c'est Stéphane, qui nous dit un beau souvenir avec mon père qui est dans les cieux depuis 15 ans. Donc, décédé depuis 15 ans. Il dit, à un moment donné, son père avait participé à la construction de la Reynolds à Bécomo.
Ah ouais, à Bécomo?
Ouais. Et il dit, il ne savait pas que 30 ans plus tard, son fils allait lui montrer l'étendue de ce projet en pilotant un Cessna tout au-dessus. On était parti de Saint-Hubert, on a volé jusqu'à Sept-Îles, on était de retour en plein coucher de soleil. On a passé au coucher de soleil à l'île aux Coudres et c'est Stéphane qui nous raconte ça. Donc, qui raconte là ce voyage avec son père.
Souvenir. Il est passé au-dessus de l'aréna pour montrer, regarde, t'as travaillé à la construction.
Ouais, t'as travaillé à tout ça, ben oui, exactement. Alors, il y a Nicole qui dit, elle, à Jersey, je me rappelle, après une pêche à la truite miraculeuse. Mon père avait décidé de faire cuire les truites, alors il a roulé les truites dans du sucre en poudre au lieu de la farine.
Ben, c'est peut-être une nouvelle recette.
Elle dit que non, elle dit l'odeur dans la maison. Lors de la cuisson, nous a mis la puce à l'oreille. On se demandait tous qu'est-ce que ça sentait. Ça sentait bon, mais pas effectivement les truites dans la farine. Donc, bonne fête, papa. Il est décédé, mais je pense à lui tous les jours. Quelqu'un qui dit « Mon oncle, frère de mon père, demande un jour à mon père de remplir le radiateur de son auto. » Il y avait une Mini Austin 63.
Mm-hmm.
Alors, il dit « Mon père, qui connaît rien à l'automobile, lui demande où est-ce qu'il doit mettre l'eau. » Alors, l'oncle lui dit, ben écoute, il y a un bouchon chromé, ça fait deux pintes d'eau, là. Alors, c'est pas compliqué, tu t'en rentres une troisième, puis tu vas être correct. Alors, le frère lui dit, OK, je vais mettre ça, le bouchon chromé, t'as dit oui. Mm-hmm. Alors, le bouchon chromé, c'était ce qu'on appelle la valve cover du moteur. Donc, il a mis de l'eau là-dedans.
Il a mis de l'eau dans le moteur.
Oui, donc, il nous raconte, ça a pris une job de moteur. On a tous beaucoup ri, mais mettons que mon père se sentait mal et que ça a coûté cher.
Ben
ça a coûté plus cher que prévu.
Bon
matin, Paul, Thérèse et Martin. Mon petit papa d'amour est décédé trop tôt à 61 ans, la journée même de la fête des pères.
Ah oui.
Donc, pour moi, c'est toujours une journée à la fois douloureuse, mais aussi une journée où je me remémore en cachette de ma mère. Ça, c'est drôle. Il m'amenait sur les chantiers de construction où il travaillait avec mes petites robes de dentelle, mais il avait pris soin de m'amener des vieux vêtements d'un sac de papier brun. Alors, on arrivait sur le chantier, il prenait soin de suspendre ma petite robe, de ranger mes belles chaussures, puis elle dit, je m'empressais de me changer. J'avais un petit sac à clous, puis il me disait, allez-y, vas-y, ma fille, tu peux te salir tant que tu veux. Elle dit, je l'adorais et je l'adore encore, étant donné que j'étais une fille à papa, une fille à son papa.
Ah, mais ça,
il me manque.
On a beaucoup de commentaires de filles à papa.
Oui, puis moi, c'est drôle parce que cette anecdote-là me rappelle le jour où mon père, pour me faire taire, parce que il est en train de travailler, puis à un moment donné, t'es autour de lui, puis tu le déranges. Alors, j'avais peut-être 3-4 ans, alors il m'a donné un petit pot de peinture, il était en train de peinturer, il m'a donné un petit pot de peinture, puis deux planches. Puis il a dit, c'est pas compliqué, Thérèse, tu prends le petit pot, là un petit pinceau, puis tu vas peinturer les petites planches.
Ça, c'est
puis
un bon père.
Elle va en avoir pour une couple d'heures.
Oui. Puis elle va s'en souvenir toute sa vie.
Ben oui, ben moi, je suis partie avec mon petit pot, puis avec le pinceau, puis moi, j'étais allée peinturer l'autre côté de la maison pendant que lui peinturait ce côté-ci. Alors, j'ai beurré tout ce qu'il y avait de possibilités.
C'est très bien ça.
C'était un
petit geste. C'est vrai, c'est un geste qui marque.
Ouais.
Que vous soyez une femme, enfin une fille, un garçon, votre père, à un moment donné, il regarde de loin, il est bien occupé, puis il dit, là, ça, il tente de scier une planche.
C'est ça.
Je vais lui donner une scie.
Ben oui.
Ou encore, je vais lui donner quelque chose pour l'occuper. Ouais. Là, vous êtes... Oh, il me fait confiance.
Ouais. C'était parfait.
Là, aujourd'hui, ça coûte 120$ faire ça.
Exactement, à cause de la maudite planche.
Mais quand ma mère est sortie quelques heures plus tard, et qu'elle a vu que tous les côtés de la maison que mon père venait de peindre avaient été repeinturés avec un petit mauve, un mélange
c'est
de peinture.
C'est pas grave.
C'était quoi?
Vous donnez une petite couche par-dessus.
Il y a Sébastien qui nous dit, moi, c'était de sortir une petite télé sur le balcon pour écouter nos expos. Puis il dit, comme toi, Thérèse, quand j'entends les voix de Roger Brulotte, de Jacques Doucet ou de Claude Raymond, ça me ramène au temps où j'étais assis avec ma doudou, mon pouce dans la bouche probablement, et mon papa en regardant le bon vieux baseball.
Ah, certain. Ça, on est tous nostalgiques.
Souvenir,
non, pas tous, là, mais ceux qui... Parce qu'il y avait quelque chose de rassurant. Le oui. père qui écoute le baseball sur le balcon.
Effectivement. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, un auditeur qui nous dit, mon père, j'aimais taquiner mon père. Vraiment beaucoup. À la fin des années 70, le New Wave est arrivé. Je suis de ceux qui aimaient se teindre les cheveux de couleur vive et qui matchaient ses vêtements avec. Alors, il dit, mon père me suppliait, sors par en arrière, sors par la porte d'en arrière. Comme à l'époque, tous les voisins veillaient sur les balcons, j'avais un plaisir fou à sortir par en avant. J'allumais les lumières du balcon, puis je disais, bye-bye, papa, pour être sûr que tout le monde me voit et m'entende. Il dit, t'aurais dû voir la face de mon père. Oh. Il avait honte, il était gêné, il savait plus où se mettre.
Ouais.
Alors, voilà.
Ouais.
Donc, quelques-unes des anecdotes, puis il y en a plein d'autres dont on va vous reparler, évidemment. Mais il y a mon père, quelqu'un qui dit, mon père est un homme d'affaires, un avocat. Pendant une période creuse de ma vie, il m'appelait, m'amenait dîner. Un homme de peu de mots, mais que de souvenirs appréciés quand j'en ai eu besoin.
Ben ça, c'est un beau, beau témoignage.
Ouais, ouais.
Les sports.
Le sport a uni beaucoup de pères avec leurs filles et leurs garçons, Martin. On a eu plusieurs anecdotes. Il y en a encore, d'ailleurs, et Thérèse va nous les transmettre un petit peu plus tard. Continuez de nous écrire au 98985 et de nous parler de votre papa. Mais le sport, Martin, est au cœur de la relation de plusieurs pères avec leurs enfants.
Oui, absolument. Même moi, tu sais, Journal de Montréal, je pense que j'ai appris le sport en lisant ce journal par en arrière. Puis tant qu'il était pas à l'envers à la table, t'avais pas le droit de toucher.
Ah!
Papa lit en premier, puis quand il avait fini, il était à l'envers à la table. Fout, là, tu peux regarder les sports.
Ah.
Puis devant la télé, là, si mon père était pas sur du sport, là, puis là, il s'endormait à la télé. Là, je changeais de poche, je mettais ça au hockey. Hey, il remet ça ce que c'était, je l'écoutais.
Un père autoritaire, un peu.
Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, t'écoutais.
Hey, parlant de ça, parlant d'écouter le hockey,
ouais.
Une atmosphère survoltée hier à Long Island. Les partisans des Islanders étaient en délire avant même que le match commence. Et ils ont gagné, les Islanders.
Oui, écoute, ça s'en allait vers un match un peu plus facile que ça l'a été. C'était un 3-0 après deux périodes. Tout fonctionnait pour les Islanders et le Lightning a décidé de nous donner un show avant la fin de la troisième période. On rétrécit l'écart à 3-2. Ça s'est terminé comme ça. Donc, cette tirée est égale 2-2. Hein, on pensait également que le Lightning allait passer à travers les Islanders facilement. C'est 2-2 dans cette série. Et ce soir, Paul.
Mais là, est-ce que ce soir, ça va être 2-2 ou 3-1?
Écoute, on espère que ce sera 3-1 pour le Canadien de Montréal. Je te l'ai dit tantôt. Le Canadien qui a remporté 9 de ses 10 derniers matchs. Ayez la foi un peu. Ça veut dire que le Beau Carey a perdu seulement un match dans les 9 derniers. On n'est pas surpris.
Ouais.
Le Canadien qui va recevoir les Golden Knights. C'est à 20h ce soir, bien sûr. Puis là, tantôt, je vous écoutais parler. 3500 personnes à l'intérieur du Centre Bell. On va parler avec Ray, combien ça rapporte, etc. Avez-vous vu le monde dehors?
Ah oui, oui.
Il y a 10 000 personnes dehors, pas de masse.
Ben oui, c'est ça. L'affaire, c'est qu'il y a le rassemblement extérieur. Et oublie pas une chose, tout est prétexte à une soirée, mais vraiment de folie. Si le Canadien gagne, tout de suite après, là, quand je dis tout de suite après le match, c'est l'été qui commence. On va avoir connu une journée ensoleillée, 29 degrés. Tout est prétexte à la fête ce
soir.
Tout
est festif. La fête des pères également. Les gens vont déjà avoir été célébrer un petit brunch avec Popa avant d'écouter le match de hockey ou peut-être souper avec Popa et l'écouter en famille également. Donc, non, c'est le fun. Puis, tu sais, de voir les gens qui se réunissent puis que c'est dans le bonheur, surtout s'il n'y a pas de casse. S'il vous plaît, cassez-les autour du Centre Bell.
Non, on casse
les
pas.
Les commerçants
tout de suite,
ont non. tellement eu une misère.
Je dis, on casse pas tout de suite. Ouais, non, mais c'est vrai.
Même jamais, Paul.
Non, jamais, mais c'est sûr. On n'a pas parlé de ça hier, mais le golf, il y a un tournoi extrêmement important en fin de semaine.
Un des quatre majeurs.
Oui,
et hier, on n'en a pas parlé parce que il y avait Félix Auger-Aliassime qui est en direct, qui s'est fait éliminer. Il y avait Chapovalov qui finissait le quart de finale, puis qui finalement, il a fini la demi-finale également, puis qui a perdu hier. Et il y avait la F1 également en direct qu'on a regardé, qui était le Grand Prix de France. Verstappen avait décroché la position de tête devant les Mercedes. Là, hier, c'est le 121e. C'est un vieux tournoi, là. Du US Open. Et c'est présentement, aujourd'hui, ça va être la ronde finale. Écoute, je ne sais pas si je vais me risquer sur le nom de famille de celui qui est.
Essaye donc pour voir.
Et Pelaye.
Essaye donc.
Paul, ça, c'est pas gentil, ça. C'est pas gentil.
Est-ce que tu as besoin d'aide?
Non, attends une seconde, là. Laisse-moi prendre mes sens.
Bon, mon Dieu. Quel
Un Canadien est en tête, mesdames, messieurs. Hughes McKenzie. Mais, si vous voulez compliquer la chose, il est égalité avec Louis
Oosthuizen.
Oosthuizen.
Ouais, ça, c'est. Voilà, ouais, il est pas facile à prononcer, celui-là.
Ah, voilà. Et pourquoi ça me fait ça à moi? Et Russell Henley également, l'Américain. Donc, triple égalité en tête. Et Rory McIlroy est à moins 3, tandis que les trois meneurs sont à moins 5. Donc, voici le portrait pour le US Open. On est à la 121e édition. Un très vieux tournoi. Et on va suivre, bien sûr, le Grand Prix un peu plus tard ce matin.
Et le tournoi se déroule sur un terrain de golf absolument magnifique. Torrey Pines. C'est un terrain de golf historique tout près de San Diego. En Californie.
Là c'est toujours beau. Alors,
San Diego. Là où il fait toujours beau.
Ouais.
C'est le plus beau climat. S'il y a une ville qui nous vient en tête, j'ai déjà parlé de ça avec Gilles Brien. Et Gilles est en mesure de comprendre que San Diego, en Californie, directement collé sur la frontière mexicaine.
Température parfaite.
Parfaite. Vous avez une amie, Thérèse?
Ben, j'ai de la famille.
La famille oui, qui reste à San Diego. Oui, tout à fait. Et il vous disait à quel point, ouais. Ben, c'est toujours le soleil, il est toujours là. Mais savez-vous pourquoi c'est si beau à San Diego? C'est parce qu'il n'y a jamais de température extrême. Alors donc, l'hiver, c'est un petit peu frais quand vous vous levez. À midi, 22-23. Et puis le lendemain, c'est 6-8 quand vous vous levez. Puis 22-23. Mais c'est comme ça à l'année longue.
Oui, donc pas de surprise.
Et pas de nuages.
C'était toujours confortable.
Voilà.
Le confort.
Torrey Pines. Alors, Martin, si un jour tu veux jouer sur un parcours historique, c'est comme Pebble Beach.
Ouais,
ça, c'est plus au nord, à San Francisco. Enfin, à Monterey, près de Monterey. Pebble Beach, voilà un autre spectaculaire parcours. Bon, alors...
Pour les gens qui s'intéressent, là, les départs des gens là, de tête, là, parce que ça a commencé plus tôt, là. Mais exemple, les Bryson DeChambeau, les Rory McIlroy, ça part aux alentours de 12h30.
Oui, donc, parce qu'il y a 3 heures de décalage. Exactement.
Et les meneurs, eux, vont partir aux alentours de 12h55.
Voilà. Nos pères nous ont marqués, nos mères nous ont marqués peut-être, j'espère pour le meilleur et non pas pour le pire, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ont de très malheureux souvenirs, non seulement de leur père, mais le climat qui régnait dans les familles.
Ouais,
c'est encore une triste réalité.
Est-ce que les pères ont appris aussi à nos auditeurs? Parce qu'il y a un auditeur qui nous dit, plus jeune, j'avais une moto. Chaque fois que j'avais un problème avec ma moto, je lui demandais de m'aider. Je l'appelais, parce que lui, il faisait la mécanique, connaissait ça. Puis il me disait, non, essaie. Si tu réussis pas, je vais y aller. Mais essaie. Je n'irai pas te le faire.
Ouais.
Et il dit, je réussissais toujours, et ce, pas juste pour la moto, pour plein de choses. Alors, j'ai fait chose avec mes enfants.
Et sans doute pour impressionner son père.
Oui, exactement. Puis, je suis fière de lui et je suis fière de ce que j'ai fait avec mes enfants. J'ai fait la même chose. Essaye.
Mais voilà, ça, c'est bien, la transmission de la responsabilité.
Absolument.
Le père de Catherine répare encore beaucoup de choses chez elle.
Ah oui, hein?
Donc, Catherine.
Oui. Mais
je pense qu'il a essayé,
on tombe pas là-dedans, là, Martin.
Non, je m'excuse.
Mettons, pas le parler.
Il a réparé Martin aussi. C'était mon directeur d'école.
C'est ça le plus drôle. C'est que la coïncidence est là, c'est que Martin a eu le père de Catherine comme directeur d'école.
Oui.
Et t'étais un peu son souffre-douleur.
Ouais.
C'est drôle parce que...
Je présume que si j'avais été gentil, j'aurais pas été son
souffre-douleur. C'est ça, j'allais le dire.
Oui, non. D'après moi, quand Catherine a me regardé, elle dit, mon père était sévère, je regarde et je fais, t'as rien vu.
Hey, exactement. Catherine a dit, mon père était sévère, mais que Martin, lui, l'a eu comme directeur, pas comme père.
Non, c'est ça.
Exactement. Non. Alors,
monsieur.
9-8, 9-8-5, les petits travers, tout ça. Je vous raconterai, on n'a pas le temps parce que, je sais pas pourquoi, parce que, ah oui, parce qu'il y a une chronique.
Oui. Je sais pas pourquoi.
J'avais oublié que
faites. Ouais, puis je vais vous faire jouer
vous
de la musique.
Une chronique.
Il est de bonne heure, mais je vais vous faire jouer de la musique. Puis je vais vous mettre de bonne humeur
Beau
le
diable,
reste
là.
De la journée.
Ouais. Beau diable.
Les fils du diable. Absolument.
On a hâte d'entendre ça.